Bonjour et bonne fête. Voilà, la fois passée, nous avons vu le grand Isaïe. Anne, tu veux bien mettre un peu de nourriture dans... Voilà. Bon. Merci. Si vous vous penchez quelques secondes sur le tableau de la page 76 du syllabus, vous verrez que la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ et le 7e sont d'une grande effervescence entre le nord, c'est-à-dire les Assyriens, puis les Babyloniens, et le sud, c'est-à-dire l'Égypte. Il y a une énorme compétition. On va de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. C'est à qui aura la prépondérance dans le Proche-Orient. Les choses n'ont pas changé aujourd'hui. C'est toujours les questionnements qui se posent sont les mêmes. C'est-à-dire, quel est celui qui a l'autorité supérieure, qui se laisse reconnaître comme la grande autorité. Et donc vous verrez que dans la Syro-Babylonie, donc il y a un changement de régime, de la Syrie on va passer à la Babylonie, notamment à partir de la défaite des Assyriens et le pillage de la ville de Ninive, Khorsabad, une ville qui était remarquable pour la Syrie, le sommet, l'acmé de la Syrie, mais quand on arrive à son sommet, c'est la même chose dans la vie, dans notre vie à nous, quand on arrive au sommet, on commence à décliner. Et il faut justement découvrir que le déclin, c'est l'accomplissement. Alors, nous avons donc tous ces noms, Salmanazar V, Sargon II, qui s'est emparé de la Samarie, puis Sennachérib, et Sennachérib qui vient faire le siège de Jérusalem, nous l'avons vu, c'est présent à la fin du premier livre d'Isaïe. Et puis, à partir de ce moment-là, ça commence petit à petit à décliner. Vous voyez que à peine à la bibliothèque de Ninive, bibliothèque qui sera supplantée par celle d'Alexandrie, à peine la bibliothèque de Ninive est-elle constituée qu'elle va être pillée et mise à sac. Alors vous avez la dynastie néo-babylonienne avec Nabopolassar, qui, avec Syax le Mède qui est déjà en train de monter, va prendre Ninive en 612. Et cette ville de Ninive en 612 qui va tomber, elle est mise en évidence par le prophète Nahum. Si vous regardez dans la troisième colonne, la colonne d'Israël et Juda, vous verrez qu'il y a là une sorte de petite concentration de quatre prophètes. Sophonie, Jérémie, Nahum et Habacuc. Donc là, on les met ensemble parce que ce sont des prophètes, nous dirions, d'annonciation. L'annonce de la lumière au milieu de l'obscurité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur les habitants du sombre pays. La lumière a jailli. Ça, c'était Isaïe. Et c'est un peu cette continuation que nous allons voir chez Jérémie. Mais je voudrais, avant de passer à Jérémie, vous donner ce petit éclair de Nahum. Nahum, c'est celui qui est consolé. Au chapitre 3e, au moment où il va décrire, donc le prophète Nahum, au moment où il va décrire la chute de Ninive, voici comment il le fait. C'est un poème remarquable en hébreu. Malheur à la ville sanguinaire, tout en mensonges, pleine de butin, où ne cesse pas la rapine. Claquement des fouets, fracas des roues, chevaux au galop, chars qui bondissent, cavaliers à la charge, flammes des épées, éclairs des lances, foule des blessés, masse des morts, sans fin des cadavres, on bute sur les cadavres. C'est à cause des prostitutions sans nombre de la prostituée. La prostituée ici, c'est Ninive, hein, capitale assyrienne. La beauté gracieuse, la bile enchanteresse, qui réduisait en esclavage les nations par ses débauches, les peuples par ses enchantements. Me voici, à toi, oracle du Seigneur Sabaoth, je vais relever jusqu'à ton visage les pans de ta robe, montrer aux nations ta nudité, au royaume ton ignominie, je vais jeter sur toi les ordures, te déshonorer, t'exposer au pilori. Alors, quiconque te verra se détournera de toi, il dira, Ninive, quelle désolation! Qui la prendrait en pitié? Où pourrais-je te chercher des consolateurs? Et ce morceau a été repris justement par l'Apocalypse pour nous dire quoi? Pour nous dire, comme s'exprime Néer lorsqu'il parle de Jérémie, pour nous dire la minuit. Il appelle Jérémie le prophète de minuit. Minuit, c'est quoi? C'est la nuit la plus sombre, la plus noire, où on ne voit plus rien, la nuit de la désolation. Et c'est là qu'il faut chercher précisément l'espérance. Pas ailleurs. Elle ne vient pas d'ailleurs. Elle surgit au plus profond de notre être. Voilà une petite introduction à Jérémie, le prophète de minuit. Voici ce qu'il nous dit. André Néer. Les soubresauts de ce chaos grandissant frémissent dans le livre de Jérémie. En même temps que se pose l'angoissante question, une nouvelle genèse sera-t-elle possible? Une naissance sera-t-elle possible, là où il n'y a que stérilité? La lumière surgira-t-elle de ce chaos comme autrefois? Aussi bien la notion de Genèse est-elle centrale dans le livre de Jérémie. Centrale à la manière d'un centre de gravité autour duquel tout se noue, tout s'organise. Elle figure dans les chapitres médians, à peu près au centre du livre, hein, chapitres 20 à 28. Ce livre n'a pas son point d'origine au début, son point de dénouement à la fin, non. Origine et fin se rencontrent dans le noyau central. Si l'on veut bien se placer là, dans ce milieu, c'est-à-dire la minuit, géométriquement du livre, on reconnaît soudain tout le paysage parfaitement coordonné dans toutes ces lignes de pente. La signification essentielle du livre de Jérémie est dans le lien entre une rive chaotique jonchée d'épaves et une autre rayonnant de végétation et de vie. Son effort est dans l'enjambement entre les débris et la plantation. La déchirure qui le traverse, est une cicatrice signalant que ce livre renferme une blessure, mais aussi qu'il redonne à la chair meurtrie les forces de l'épanouissement. L'ombre et la lumière s'y rencontrent simultanément dans l'énergie conjuguée d'un chaos et d'une création. Cette énergie porte un nom dans le livre de Jérémie, minuit. Voilà, campé, si vous voulez bien, le livre de Jérémie. Yirmiyahu, dont le nom signifie Yirmiyahu veut dire le Seigneur élève, le Seigneur exalte, ou si on met un chet, Yirmiyahu, donc c'est Racham, ce serait Dieu ouvre le sein. Et les rabbins aiment bien de jouer sur les mots pour nous dire précisément que Dieu élève en nouant dans le sein la vie. Évidemment, ce livre nous dit, comme le livre d'Isaïe, ce livre nous dit non pas seulement les événements, et aux événements, on fait allusion de deux manières. Parce que le livre de Jérémie est une suite de morceaux en prose et de morceaux en poésie. On passe constamment de la prose, c'est-à-dire de la réalité de l'histoire, la manière habituelle de parler, et la poésie, c'est-à-dire cette histoire redite dans sa profondeur. Dans sa profondeur qui est dans le vague. Parce que la réalité profonde, on ne peut pas la dire de façon précise. Elle est le mystère. Le mystère qui surgit à l'intérieur de... À l'intérieur de cette coque qu'il faut casser pour découvrir la réalité profonde. Et donc nous avons là le ressenti de Jérémie. Il y a des passages autobiographiques, il y a des passages biographiques, et puis il y a des passages d'exaltation, de poésie. Et tout cela est savamment ordonné dans ceux qui ont mis en œuvre le livre de Jérémie. C'est jamais le prophète qui a écrit tout cela comme cela. C'est après l'exil qu'on a mis ensemble des souvenirs du prophète et qu'on a plus ou moins ordonné suivant les différents rois de Jérusalem. Parole de Jérémie, je débute, parce que Jérémie va nous parler d'abord de sa vocation. Parole de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres résidant à Anatot. Anatote, au nord de Jérusalem, 6 kilomètres au nord de Jérusalem, Anatote était le lieu où résidait une famille, non pas une famille une famille sacerdotale, mais non pas du sacerdoce de Jérusalem, mais du sacerdoce ancien, de Silo, des descendants du prêtre Élie. En territoire de Benjamin, à lui fut adressée la parole du Seigneur au jour de Josias. Josias, le grand réformateur, mais le réformateur qui est mort à Megiddo. Et justement, il commençait une réforme et il est décédé à la guerre. Alors on s'est posé la question, est-ce que cette réforme venait de Dieu? Une grosse question. Et donc c'est sur ces entrefaites-là que Jérémie va apparaître. Fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, puis au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, Sédéchiahou, le Seigneur est justice, fils de Josias, ils vont succéder à Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. Donc on arrive à répéter ce qui avait été la chute de Samarie, mais cette fois-ci c'est Jérusalem qui va tomber. La parole du Seigneur, je suis toujours au chapitre 1er, verset 4, la parole du Seigneur me fut adressée. Donc ici c'est Jérémie qui parle lui-même, de lui-même. En ces termes, Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Un verset important. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Nous sommes dans la pensée, dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans cette présence de Dieu, dès avant notre naissance, dès avant notre formation, dès avant notre conception. Important. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Prédestination. Qu'est-ce que ça veut dire, prédestination? C'est ça qu'on doit faire? Ou bien c'est cela qu'on est? Reconnaître que nous sommes prédestinés à l'amour, à la totalité. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Déjà l'universalité est présente. Et je dis, oh Seigneur, Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Nahar, Ani, je suis un enfant, un adolescent. Nahar. Mais le Seigneur répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car, et voilà le leitmotiv qui était déjà présent chez Isaïe, Emmanuel, Immanuel, je suis avec toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et me touche à la bouche, même geste que chez Isaïe, chapitre 6e. Et il me dit, « Voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer, démolir, pour bâtir et pour planter. » 2 jours de destruction pour 1 jour de reconstruction. Hein, toujours le salut vient à la au troisième jour. Voilà, ça c'est l'invitation, c'est l'incapacité qui devient capacité. Dieu transforme l'incapacité d'un enfant en capacité d'un amour miséricordieux, mais évidemment qui va passer par la souffrance. Puisqu'il doit annoncer constamment violence et ruine. Et il va s'en plaindre d'ailleurs. Alors il faut un test évidemment. Quand on appelle, il faut voir si le test fonctionne. Bien, le test vient immédiatement après. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Le test du prophète, c'est de savoir... Est-ce qu'il voit intérieurement les choses? Je répondis, je vois une branche de veilleur. Une branche de veilleur. Et je joue sur les mots, parce qu'en hébreu, l'amandier, qui fleurit vers février, l'amandier s'appelle le veilleur, celui qui annonce le printemps. Maquel shaked. Ah, je vois une branche, Maquel Shaked, une branche de veilleur, une branche d'amandier qui fleurit. Ah, tu vois ça. Mais que ça veut dire? Alors le Seigneur me dit, bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il a compris, il comprend. Car le Seigneur l'insuffle en lui, il comprend le sens profond. Si tu as vu une branche de veilleur, tu as vu que le Seigneur était en train de veiller. Bon. Oui, mais attention, ça ne suffit pas. Deuxième test. Une seconde fois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une marmite qui bouillonne. Le premier signe venait de la nature. La branche de veilleur, c'est le printemps, ça, ça ne dépend pas de nous, c'est pas nous qui mettons des fleurs sur les arbres. Une marmite qui bouillonne, ça c'est la vie quotidienne. La marmite qui bouillonne, hein, il fait sa soupe. Son contenu se penche vers le nord. Ah, tu as vu un petit détail, que son contenu bouillonne vers le nord. Alors le Seigneur me dit, oui, c'est du nord que va déborder le malheur sur tous les habitants du pays. Car voici que j'appelle toutes les familles des royaumes du nord, oracle du Seigneur, ils viendront, et chacun placera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses remparts, tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné. Asvou et Adonai, disait, ils m'ont abandonné, disait Isaïe. Jérémie continue, ils m'ont abandonné. Ils ont encensé d'autres dieux, ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Voilà. Quand on choisit l'idolâtrie, on choisit sa perte, à brève ou longue échéance. Ce n'est pas ça qui est important, mais on choisit vraiment sa perte. On introduit un poison. Quand on centre les choses sur soi, au lieu de rester ouvert au Seigneur et aux frères, on choisit la perte. C'est toujours l'histoire, hein, de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bonheur et du malheur. L'arbre de vie étant la présence de Dieu, l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur étant notre propre histoire. Si on ramène à soi, on meurt. Et donc, voilà, c'est fait. Découvrir dans la nature que la nature reverdit, c'est-à-dire que la vie vient de Dieu. Découvrir que dans le bouillonnement des hommes, c'est la destruction, le pillage, le butin, la rapine, comme nous le voyons l'avons vu dans Nahum. Voilà donc l'appel. Un appel pour lequel on se sent incapable, comme Jérémie. Et justement, cette capacité doit venir d'ailleurs, mais doit s'intégrer dans notre incapacité. C'est précisément ce qui est dit. Et ce qu'il va falloir découvrir, c'est dans la vie comme dans la mort, la présence du Seigneur. Évidemment, puisque Dieu est l'unique, tout dépendant de lui, dans la vision biblique, Dieu souffle à la fois le malheur et le bonheur. Ce qui veut dire qu'il est présent dans une situation comme dans l'autre, parce que Dieu fait avec ce que l'homme lui donne. Dieu se met à la disposition de l'homme. Et on va voir dans la première partie de Jérémie, du livre de Jérémie, ici, dans le livre, vous avez un titre qui vous dit « Oracle contre Juda et Jérusalem au temps de Josias ». Oracle, chez les prophètes, signifie fardeau, charge, nous dirions aujourd'hui responsabilité. Une responsabilité de voir clair dans les événements. Et de donner, au milieu du malheur, une parole de vie. Mais ce n'est pas facile. Et le cœur, je dis ici un mot qui est très important chez Jérémie, c'est le terme de cœur. Jérémie a appris quelque chose de l'école deutéronomiste, que nous trouvons justement dans le Deutéronome, et au cœur aussi, disons, redisons le mot, au cœur de la réforme de Josias. Le terme de cœur. Revenir vers son cœur, revenir vers Dieu, c'est la même réalité. Revenir, revenir. Fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-moi revenir. Mais revenir à quoi ? Au Seigneur, c'est-à-dire au Sinaï, c'est-à-dire à l'Alliance. Mais où est cette Alliance ? Où se vit-elle ? Elle est tout près de toi, dit le Deutéronome. Elle est dans ta vie, elle est dans ton cœur. La présence du Seigneur, la parole du Seigneur, est au cœur de l'homme. Redécouvrir la présence de Dieu, c'est redécouvrir ce qu'on est, au-delà des apparences. Et voilà, c'est le drame, comme nous l'avons vu chez Osée, par parenthèse, Jérémie tient beaucoup d'Osée, de cette perception profonde de la vie personnelle qui est en harmonie avec la vie du peuple. Tout ce qu'on découvre en soi, on le découvre à l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle, dans le livre de Jérémie, il y a ce qu'on appelle les confessions. Les confessions de Jérémie, c'est l'expression de son ressenti devant son incapacité, incapacité à faire ce que Dieu lui demande. Et vous avez donc cinq morceaux surtout, cinq morceaux qu'on appelle aussi d'une autre manière les poèmes du serviteur souffrant chez Jérémie, c'est-à-dire celui qui est appelé par Dieu et qui, parce qu'il est appelé par Dieu, est persécuté. Je vous cite au chapitre 11e, à cheval sur le chapitre 11e et sur le chapitre 12e, un de ces passages. C'est au chapitre 11e, versets 18 et suivants, c'est le premier de ces morceaux. Le Seigneur me l'a fait savoir, et je l'ai su. Tu m'as montré leurs agissements. Et moi, comme un agneau confiant qu'on mène à l'abattoir, vous trouvez un peu les termes chez Isaïe, mais nous n'avons pas encore vu cette deuxième partie d'Isaïe, j'ignorais qu'il tramait contre moi des machinations. Détruisons l'arbre dans sa vigueur. Vous voyez, l'arbre qui est la personne. Hein. Détruisons l'arbre dans sa vigueur. Arrachons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Il s'agit du prophète, évidemment. Le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées, qui juge avec justice, qui scrute les reins et les cœurs, je verrai ta vengeance contre eux. On invite le Seigneur à se venger. Car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Sabaoth contre les gens d'Anatote qui en veulent à ma vie. Et qui me disent, tu ne prophétiseras pas au nom du Seigneur, sinon tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais les visiter. Leurs jeunes gens mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles par la famine. Il n'en restera aucun quand j'amènerai le malheur sur les gens d'Anatote l'année de leur châtiment. On a introduit la mort. La mort revient comme un boomerang. Tu es trop juste, Seigneur, pour que j'entre en contestation avec toi. Cependant, je parlerai avec toi de questions de droit. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère ? Ah ! Si Dieu est juste, eh bien, il doit justifier le juste. Et pourtant, on voit beaucoup de méchants qui prospèrent indéfiniment. Pourquoi ? Tous les traîtres sont-ils en paix ? Tu les plantes, ils s'enracinent, ils vont bien, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leurs reins. Mais toi, Seigneur, tu me connais, tu me vois, tu éprouves mon cœur qui est avec toi. Enlève-les, comme des brebis pour l'abattoir, consacre-les pour le jour du massacre. Car ils disent, Dieu ne voit pas notre destinée. Si la course avec des piétons t'épuise, comment lutteras-tu avec des chevaux ? Dans un pays en paix, tu te sens en sécurité, mais que feras-tu dans les alliés du Jourdain ? Car même tes frères et la maison de ton père, même eux te trahiront, même eux crieront après toi à pleine voix. N'aie pas confiance en eux quand ils te diront de bonnes paroles. Jérémie est contre l'idolâtrie, toutes les fausses expressions de Dieu, toutes ces images qui remplacent la personne de Dieu. Images nécessaires parce qu'elles sont un chemin vers Dieu, mais qu'il faut sans cesse casser. Comme pour avancer sur le chemin, il faut quitter les lieux où on était et par lesquels on passe. Et la difficulté, c'est celle-là. C'est vivre avec cette certitude au cœur de la présence du Seigneur, « Je suis avec toi ». Mais on n'assent pas toujours cette expérience du Seigneur. Et nous retrouvons au chapitre 15e, où la vocation revient, l'appel revient de temps en temps. « Malheur à moi, ma mère, car tu m'as enfanté, homme de querelle et de discorde pour tout le pays. » Chapitre 15, verset 10 et suivant. « Jamais je ne prête ni n'emprunte. Pourtant, tout le monde me maudit. » Donc ce n'est pas des questions d'argent. En vérité, Seigneur, ne t'ai-je pas servi de mon mieux ? Ne t'ai-je pas supplié au temps du malheur et de la détresse ? Le fer brisera-t-il le fer du nord et le bronze ? Ta richesse et tes trésors, je vais les livrer au pillage sans contrepartie, à cause de tous les péchés sur tout ton territoire, je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. C'est la déportation qui est en vue, car ma fureur a allumé un feu qui va brûler sur vous. Toi, tu le sais, Seigneur. Souviens-toi de moi, visite-moi et venge-moi de mes persécuteurs. Dans la lenteur de ta colère, ne m'entraîne pas, reconnais que je subis l'opprobre pour ta cause. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur, car c'est ton nom que je portais. Seigneur Dieu Sabaoth, jamais je ne m'asseyais dans une réunion de railleurs pour m'y divertir. Sous l'emprise de ta main, je me suis tenu seul, car tu m'avais empli de colère. Pourquoi ma souffrance est-elle continue, ma blessure incurable rebelle aux soins ? Vraiment, tu es pour moi comme un ruisseau trompeur aux eaux décevantes. Et le Seigneur va redire, et plusieurs fois cela revient dans le livre de Jérémie, ils ont abandonné la source pour se creuser la source d'eau vive, pour se créer des citernes qui ne tiennent pas l'eau. Nous avons un peu plus loin au chapitre 17e, versets 14 à 18, encore un passage. Jérémie est un jeune. Jérémie se plaint. Et c'est un peu ce caractère que l'on a retrouvé dans les lamentations. On appelle généralement les lamentations de Jérémie parce qu'on les a mis après le livre de Jérémie, comme le livre de Baruch, Baruch étant le secrétaire de Jérémie. Et on parle de Jérémiade, c'est-à-dire de plainte, de lamentation. « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Les voici qui me disent, où est-elle la parole du Seigneur? Qu'elle s'accomplisse donc. Pourtant, je ne t'ai pas poussé au pire. Je n'ai pas désiré le jour fatal. Toi, tu le sais. Ce qui sort de mes lèvres est à découvert devant toi. Ne sois pas pour moi une cause d'effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Qu'ils soient honteux, mes persécuteurs, et que je ne sois pas honteux, moi. Qu'ils soient effrayés, eux, et que je ne sois pas effrayé, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, brise-les deux fois. Et encore un passage au chapitre 18e, versets 18 à 23. Ils ont dit, ils, hein, les persécuteurs, ceux qui m'en veulent, ceux qui en veulent à la prophétie, et donc au Seigneur. Venez, machinons un attentat contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de prêtre, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Le vrai prophète, parce qu'il ne caresse pas les gens dans le sens du poil, on le prend pour un faux prophète. Et pourtant, c'est lui le vrai. Prête-moi attention, Seigneur, et entends ce que disent mes adversaires. Rend-on le mal pour le bien? Or, ils creusent une fosse à mon intention. Rappelle-toi, comme je me suis tenu devant toi pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin de toi loin d'eux, ta fureur. Abandonne donc leurs fils à la famine, livre-les à la merci de l'épée, que leurs femmes deviennent stériles et veuves, que leurs maris meurent de la peste, que leurs jeunes soient frappés de l'épée au combat. Oui, l'esprit de revanche, hein, vu même chez les prophètes. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu amèneras contre eux des bandes d'armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre et sous mes pas camouflé des pièges. Mais toi, Seigneur, tu connais tous leurs desseins meurtriers contre moi. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils s'effondrent devant toi au temps de ta colère agit contre eux. Tous ces sentiments de vengeance que nous retrouvons pas mal dans les psaumes, ils font partie de notre cœur. Et donc il faut qu'ils sortent de nous, que nous puissions les déposer quelque part, mais où devons-nous les déposer? À qui faut-il les offrir? Sinon précisément au Seigneur. Pour qu'il les transforme. Pour qu'il les transforme en réalité profonde d'espérance. Et je reprends le dernier chapitre, au chapitre 20, versets 7 à 18. Tu m'as séduit, Seigneur. Et je me suis laissé séduire. Mais séduire, ce n'est pas seulement tu as été agréable. C'est, au fond, tu m'as forcé. C'est un terme assez fort. Tu m'as séduit, Seigneur. Je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé. Tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et ruine. La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur, comme un feu dévorant, enfermé dans mes os, je ne pouvais le contenir. Mais je n'ai pas pu. J'entendais des calomnies de beaucoup, terreur de tous côtés, dénonçons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous serons plus forts que lui et tirerons vengeance de lui. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher vaincus, les voilà tous confus de leur échec, honte éternelle, inoubliable. Vous voyez, c'est un homme torturé. C'est un homme torturé qui doit dire, violence et ruine, attention, le malheur vient et vous serez tous déportés. Qui n'est pas compris, qui n'est en tout cas pas accepté à cause de ce qu'il dit. Et il revient toujours à « Mais le Seigneur est avec moi ». Faiblesse et grandeur du prophète. Comment maintenant, donc ça c'est son dialogue intérieur avec le Seigneur. Mais comment se trouve-t-il face au peuple ? Alors évidemment, un des passages les plus intéressants, les plus importants, qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament aussi, c'est au chapitre 7e, où nous voyons notre prophète Jérémie arrivé à la porte du temple, juste au moment où se termine la célébration. Tout le monde sort, un peu comme si nous allions aujourd'hui à la fin d'une Eucharistie, dans une paroisse, et puis on regarde les gens, et on dit, qu'est-ce que vous êtes allés faire donc là, dans ce temple? Je prends le texte. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Tiens-toi à la porte du temple du Seigneur. Proclame-y cette parole. Et dis, écoutez la parole du Seigneur, cette parole. Et dis, écoutez la parole du Seigneur, vous tous les Judéens qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, et je vous ferai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères, c'est le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur. Nous, au moins, on va à la messe, Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si vous avez un vrai souci du droit, chacun avec son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent en ce lieu, et si vous n'allez pas, pour votre malheur, à la suite d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères, à ce qui est vain. Quoi ? Voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom et dire « Nous voilà en sécurité » pour continuer toutes ces abominations à vos yeux. Est-ce un repère de brigands ? Ce temple qui porte mon nom. Texte qui va revenir lorsque Jésus purifie le temple précisément, le même temple. Moi, en tout cas, je vois clair, oracle du Seigneur. Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo. Autrefois, je fis habiter mon nom. Regardez ce que j'en ai fait à cause de la perversité de mon peuple Israël. Même les choses les plus sacrées périssent. Le temple, la royauté, le pays lui-même, tout va être dévasté. Tous les dons du Seigneur vont disparaître. Parce que le Seigneur est plus grand que ses dons. Parce qu'il est présent même quand ses dons ne semblent plus exister. Parce que le Seigneur n'est pas dans ses dons, il est en nous qui sont les bénéficiaires de ces dons. Et alors, il parle des dieux étrangers et du culte sans fidélité. Du culte qui n'est qu'expression, qui n'est que rite, n'est plus le culte véritable. Et vous avez, je le cite justement, parce que dans la foulée de ce texte du chapitre 7e, vous avez le chapitre 8. Et le chapitre 8 dit ceci, au verset 13. Vous savez que depuis Isaïe, la vigne devient le symbole, la représentation fondamentale du peuple d'Israël. La vigne dévastée, c'est le pays dévasté. Je vais les supprimer, oracle du Seigneur. Plus de raisins à la vigne, nous retrouvons Isaïe 5, plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier. Vous savez que la vigne est entourée généralement de figuiers qui donnent un peu d'ombre et qui gardent l'humidité dans la terre. Plus de figues au figuier, même le feuillage se flétrit. Je leur ai fourni des gens qui les piétinent. Justement, à la sortie du temple, à la fin de la vie de Jésus, vous avez ce figuier stérile. Mais c'est une reprise, évidemment, de Jérémie. Le peuple n'a pas compris ce qu'était l'alliance, et que l'alliance était une réalité intérieure et pas seulement un comportement extérieur ou rituel. Et alors, justement, tout le chapitre 8 et le chapitre 9 vont mettre en évidence la corruption de morale de Judas. Il y a alors, après tous ces oracles prononcés à l'époque de Josias, et puis à l'époque de Joachim, vous avez les oracles qui concernent les nations. Et après avoir vitupéré contre le peuple d'Israël et contre les nations, vous avez, comme au chapitre 40e d'Isaïe, des prophéties de bonheur. Car c'est à travers toute cette vie et cette opposition que nous mettons en cette présence de Dieu que le Seigneur passe. Et nous avons vu que Isaïe devenait prophète de l'endurcissement, c'est-à-dire en montrant tout ce que le Seigneur devait traverser pour vivre dans ce peuple. Jérémie est arrêté. Jérémie est d'abord arrêté et passe dans une prison au corps de garde, puis il est mis dans une fosse. Et c'est à ce moment-là que naissent les prophéties de consolation. Restauration promise à Israël. La restauration commence par l'intérieur, pas par la reconstruction du peuple, mais par la reconstruction des hommes. Nous dirions aujourd'hui, c'est par l'éducation qu'on édifie un peuple. Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos enfants? Et je vous dirai quelle sera votre situation dans 50 ans. Je vous lis ce passage, je vous le lis en entier. Nous retirons de ce passage surtout les versets 31 à 34. Ils étaient ceux de la première lecture d'hier, cinquième dimanche du carême. Mais il faut remettre ce passage sur l'Alliance nouvelle dans son ensemble. Donc je lis le chapitre 31e. En ce temps-là, c'est quand? Ce temps-là. Mais c'est quand? Il n'y a pas de date. C'est maintenant. C'est toujours le maintenant. L'aujourd'hui et le maintenant. Vous savez que aujourd'hui revient tellement fréquemment dans le Deutéronome, parce que c'est le livre de l'aujourd'hui. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Attention à ces futurs que nous retrouvons souvent. Ces futurs traduisent non pas un avenir, mais un présent ouvert. Le futur, en hébreu, c'est l'inaccompli. Mais l'inaccompli est en route. Alors ne disons pas « ça viendra plus tard ». C'est en route, mais en germe. Mais dans le germe se trouve l'arbre. Et toute la puissance d'expansion de l'arbre est présente dans le germe. Et donc c'est cette réalité profonde qui est mise en évidence. Cette énergie de Dieu qui se trouve dans l'atome que nous sommes. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et elles seront mon peuple. Quand est-ce que ce sera? Mais ça commence. Ça commence. Donc ça l'est déjà. Oui, mais on ne le voit pas. Mais on n'a pas besoin de le voir. C'est ce qui existe. Je suis dans mon peuple comme je suis en toi. Fais-moi vivre. C'est bien l'annonciation, ça. Hein? Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce au désert, le peuple échappé à l'épée. Israël marche vers son repos. Israël est en train de marcher vers son repos. De loin, le Seigneur m'est apparu. Ah, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur ? D'un amour éternel, je t'ai aimé. Je t'ai aimé, Israël, qui est pris comme un personnage féminin. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Aussi t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, vierge d'Israël. De nouveau, tu te feras belle. Avec tes tambourins, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. De nouveau, tu seras planté de vignes sur les montagnes de Samarie. Oui, ce sera le jour où les veilleurs crieront sur les montagnes d'Éphraïm. Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. On reviendra au temple de Jérusalem. Car ainsi parle le Seigneur, criez de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites-vous entendre, louez, proclamez. Le Seigneur a sauvé son peuple, le reste d'Israël. Le reste, même s'il n'y en a qu'un, c'est tout le peuple. Voici que moi, je les ramène du pays du Nord. Vous voyez, c'est comme s'ils étaient déjà allés en captivité et qu'ils reviennent déjà. Voici que moi, je les ramène du pays du Nord. Je les rassemble des extrémités du monde. Parmi eux, l'aveugle et le boiteux, les femmes enceintes et la femme qui enfante, tous ensemble, c'est une grande assemblée qui revient ici. En larmes, ils reviennent. Dans les supplications, je les ramène. Je vais les conduire au cours d'eau, par un chemin tout droit, où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Parole extrêmement importante. C'est la parole d'adoption. C'est l'adoption qui fait l'enfant. La maman, on sait qui c'est. Le papa, on ne sait pas toujours. Alors, quand un enfant naît, celui qui veut assumer la paternité de l'enfant prend l'enfant sortant du sein maternel, le met sur ses genoux. Et il dit, proclamant à tous ceux qui sont là, « Je suis ton père et tu es mon fils. » C'est ça qui crée la paternité. Nation, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un pasteur son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob. Il l'a délivré de la main d'un plus fort. Vous connaissez ce texte qui revient dans l'Office. Ils viendront criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur. Le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche, les brebis et les bœufs, ils seront comme un jardin bien irrigué. Ils ne languiront plus. Alors la Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux, je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, les réjouirai après leur peine. Je fournirai aux prêtres abondance de graisse, et mon peuple sera rassasié de mes biens, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. À Rama, une voix se fait entendre, une plainte amère, c'est Rachel qui pleure ses fils. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils, car ils ne sont plus. Vous savez que Rachel a mis au monde Benjamin, et puis elle est morte. Ainsi parle le Seigneur, cesse ta plainte, sèche tes yeux, car il est une compensation pour ta peine, oracle du Seigneur. Ils vont revenir du pays ennemi. Il y a donc espoir pour ton avenir, oracle du Seigneur. Ils vont revenir, tes fils, sur leur territoire. J'ai bien entendu le gémissement d'Éphraïm. Tu m'as corrigé, j'ai subi la correction. Comme un jeune taureau non dressé, fais-moi revenir, que je revienne, car tu es le Seigneur, mon Dieu. Car après m'être détourné, je me suis repenti. J'ai compris, je me suis frappé la poitrine. J'étais plein de honte, je rougissais. Oui, je portais sur moi l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, que chaque fois que j'en parle, je veuille encore me souvenir de lui? C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Dresse-toi des jalons, mets en place des bornes, remarque bien la route, la voie où tu as marché. Reviens, Vierge d'Israël, reviens vers ces villes qui sont tiennes. Jusque à quand tourneras-tu de ci, de là, fille rebelle? Car le Seigneur crée du nouveau sur la terre. La femme recherche son mari. Non plus son Baal, non plus ses idoles, mais son Dieu. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. On dira encore cette parole au pays de Juda et dans ses villes quand je ramènerai leurs captifs. Que le Seigneur te bénisse, toi demeure de justice, toi sainte montagne. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bétail. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle, elle prend cours dès l'Ancien Testament, hein. Cette alliance nouvelle, c'est précisément ce retour d'Israël dans sa terre. Elle s'accomplira avec Jésus. Mais l'alliance nouvelle fait partie de l'ancien. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je l'ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ça, c'était une alliance basée sur la liberté extérieure, sortie de l'oppression. Mon alliance, qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. C'est la transformation intérieure que je demande et que je produis. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Voilà. Voilà l'adoption. Alors, ils n'auront plus à s'instruire chacun son prochain, c'est-à-dire de l'extérieur, en recevant un témoignage extérieur, chacun son frère en disant « Ayez la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront. » Des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. L'évangélisation ne vient pas par la parole seule. Elle vient par l'expérience de la présence du Seigneur. C'est cette présence intime, l'évangélisation. Car l'évangile, c'est cette bonne nouvelle de Dieu présent dans notre humanité. Et c'est déjà dans l'Ancien Testament. Ainsi parle le Seigneur, lui qui établit le soleil pour éclairer le jour, commande à la lune et aux étoiles pour éclairer la nuit, qui brasse la mer et fait mugir les flots. Autrement dit, le Seigneur est le Créateur. Et il ne cesse pas de créer. Donc cette nouvelle alliance, c'est se laisser recréer de l'intérieur et devenir ensemble, personnellement et puis ensemble, une présence de Dieu. Et voilà pourquoi le cœur est tellement important. Je pardonnerai leurs péchés. La perception profonde de la miséricorde infinie du Seigneur. C'est en bref le message de Jérémie. En très bref, bien entendu. Parce que pour lire Jérémie, il faut, comme pour lire Isaïe, hein, passer par les hauts et les bas constamment. Et découvrir que c'est sans cesse à recommencer. Pardon, je vous ai volé 5 minutes.